Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
C'est la nouvelle version du Mistral gagnant, Mistral AI, comme Artificial Intelligence, un vent nouveau qui souffle sur le secteur des nouvelles technologies depuis le début de l'année, porté notamment par les Américains d'OpenAI, dont le robot conversationnel ChatGPT est en train de conquérir la planète. Mais cette fois-ci, le vent en question, ce Mistral gagnant, souffle de France. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos, un programme disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles si cette émission vous a plu. La nouvelle est tombée à point nommé le 11 juin dernier, quelques jours à peine avant le début du salon Vivatech. La start-up Mistral AI a levé plus de 100 millions d'euros afin de l'aider à développer un modèle de langage informatique à destination des entreprises. Un chat GPT Pro à la française, capable de concurrencer les grands groupes américains, déjà leaders dans ce domaine, présenté comme une nouvelle révolution industrielle. Oui, cocorico, car si la Silicon Valley a pris un peu d'avance dans l'intelligence artificielle, la France veut avoir son mot à dire et elle ne compte pas seulement sur ce Mistral pour refroidir la concurrence, mais aussi sur son formidable réservoir de compétences bien humaines. Bonjour Charlie Perrault.
Bonjour Pierrick.
Vous êtes chef du service Startup aux Échos. Mistral AI, c'est un peu la startup que personne n'a vraiment vu venir.
Pas trop. Écoutez, moi j'en ai entendu parler pour la première fois, c'était début avril. J'ai commencé à recevoir des SMS, vous savez, d'entrepreneurs, d'investisseurs qui disent qu'il se passe quelque chose. Alors, on ne savait pas trop au début, est-ce que c'était un projet, est-ce que c'était une fondation, une association, une entreprise. Mais en tout cas, le mot qui revenait, c'était l'IA et l'IA générative. Et effectivement, au fur et à mesure qu'on a creusé, on a découvert qu'il y avait donc trois garçons qui étaient en train de créer. En tout cas, le but, c'est une alternative à OpenAI, donc vraiment 100% européen, et puis on peut même dire 100% français, puisque les trois fondateurs sont français, et ils ont créé seulement les statuts, enfin ils ont déposé les statuts de l'entreprise mi-mai. Donc vous voyez, c'est vraiment très très récent.
Alors trois garçons dans le vent, il en manque un, mais on verra tout à l'heure qu'ils sont bien entourés pour essayer de tailler des croupières aux Américains d'OpenAI. Ils ont déposé les statuts et un mois après, à peine, Mistral lève un peu plus de 100 millions d'euros, c'est beaucoup.
Oui, c'est beaucoup pour une première levée de fonds, ce qu'on appelle dans le jargon une levée en amorçage. En général, vous levez, allez, entre 500 000, 2, 3 millions. Bon, après, dans les années, vous savez, 2020-2021, avec le Covid, c'est vrai qu'on a connu des fois des levées très importantes, mais ça n'a jamais été jusqu'à 105 millions, précisément. C'est vraiment un record. Mais il faut prendre en compte, ça c'est hyper important, qu'en général, quand vous levez, vous levez 10 millions pour une start-up, vous avez 80% de l'argent qui va en gros à du recrutement. C'est là pour payer des salaires et vous avez après 20%, c'est pour du marketing en général. Voilà, je grossis le trait. Mais là, c'est 80% qui vont dans de la puissance de calcul, puisqu'on doit faire tourner effectivement tous ces modèles et donc il faut louer des serveurs et ça coûte très très cher, même si c'est de la location, alors qu'ils ne les achètent pas parce que c'est encore plus cher et que c'est très difficile, il y a des listes d'attente monumentales, mais rien que la location, ça devient très très cher. Donc c'est pour ça qu'ils ont besoin dès le démarrage en fait d'avoir autant d'argent pour pouvoir tenir et développer cette puissance de calcul.
Ouais, il ne suffit pas seulement d'embaucher de la matière grise. Hein. Là, il faut aller en chercher dans des appareils. Effectivement, on l'avait vu hein, dans le sujet Nvidia, rien que certains composants coûtent plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et c'est vrai que dans un marché du financement des startups un peu morne, cette levée de fonds de 105 millions, c'est une belle récompense. Mais pourquoi cet emballement autour de cette startup qui vient à peine d'être créée?
Il faut savoir effectivement qu'il y a de moins en moins de levées de fonds. C'est calmé depuis à peu près un an. Mais il y a encore des fonds d'investissement de capital risque qui lèvent de l'argent ou qui en ont encore. C'est-à-dire qu'on s'assoit encore sur ce qu'on appelle, nous, le dry powder, donc encore un petit sac d'argent qui est prêt à être dépensé. Donc, il y en a encore. Donc, quand ils ont envie d'ouvrir les vannes, j'ai envie de dire, ces fonds, ça peut aller, du coup, très fort et on peut se battre sur certaines opérations. Et évidemment, en ce moment, sur quelles opérations ils se battent? Sur tout ce qui est IA, IA générative. L'année dernière, c'était plutôt Web3. Voilà. On a changé un petit peu de vague. Et c'est ce qu'on appelle, vous savez, dans ce milieu, c'est un peu un effet moutonnier et ce qu'on appelle même le FOMO, donc la fear of missing out, qui est donc la peur de louper un deal. Donc, on veut vite rentrer quelque part et donc mettre le plus d'argent possible.
Alors, comme je l'ai dit toujours, faut pas rater ça.
Alors justement, quels sont les fonds qui ont pu participer à cette opération?
Alors, il y a un fonds déjà qui a mené le tour de table, qui s'appelle Lightspeed Ventures, qui est un gros fonds américain de capital risque qui s'est installé, je dirais, il y a un peu plus d'un an en France. Il y avait une personne à l'époque, Antoine Moiroux. Et du coup, voilà, c'est lui qui a complètement réussi à prendre, entre guillemets, le lead sur l'opération. Et ensuite, vous avez toute une longue liste d'investisseurs, parce que comme je vous ai dit, tout le monde voulait rentrer. C'était un petit peu la guerre, franchement, de ce qu'on m'a dit après en coulisses. C'était de la drague, vraiment, il fallait y être. Et vous avez des fonds européens qui sont très connus dans l'écosystème, qui ne parlent peut-être pas à tout le monde, mais qui est l'allemand La Famiglia. Vous avez Headline aussi, Exor Ventures en Italie, First Minute Capital, Local Global au Royaume-Uni. Donc voilà, toute une longue liste de fonds européens et quelques Français. Alors, on a Euraseo, mais alors, c'est autant vous dire, c'est des gens qui ont mis très, très peu d'argent. J'ai appris ça il y a quelques jours seulement. Vous voyez, ça tombe bien pour ce podcast. Mais ils ont, en gros, moins de 2% du capital, ces fonds français. Donc, c'est chacun, je voulais dire. Mais donc, c'est vraiment très, très peu. On dit, en général, ils sont là pour voir quand ils mettent si peu d'argent, quand ils mettent 200, 300, 400 000. Des toutes petites lignes, c'est comme ça. Et vous avez quand même BPI France qui est rentré. Donc, on peut dire quand même qu'on a un fonds français assez fort dedans. Et après, beaucoup de personnalités très connues dans l'écosystème tech, comme Xavier Niel, donc le patron de Free, Rodolphe Saadé, donc de CMA CGM, puisqu'il investit de plus en plus dans les startups. Vous avez le family office de la famille des Galeries Lafayette, donc la famille Ouzé, et Eric Schmidt, qui est donc l'ancien patron de Google.
On peut regretter finalement que ce soit un fonds américain qui, prenne le lead sur cette IA bien française, ou en tout cas qu'on essaye de développer en France.
Évidemment, vous savez, quand on a tout de suite parler de cette opération, c'était la première critique qui a fusé un peu partout sur les réseaux sociaux. Après, moi, je trouve ce qui a du sens quand même, c'est qu'il faut quand même quelqu'un qui ait beaucoup d'argent, donc un gros fonds d'investissement, parce qu'il faut penser au tour suivant. C'est-à-dire que quand on a une boîte comme justement Lightspeed Ventures, ils ont énormément de connexions avec beaucoup, beaucoup de fonds américains. Donc, c'est hyper important aussi de les avoir dès le démarrage. Alors, après, on ne sait pas si, est-ce que parce qu'il y a des Français ne voulaient pas mettre autant d'argent, ça, c'est un peu question.
Oui, c'est vrai que c'est toujours cette critique. Il manque aujourd'hui en France, effectivement, quelqu'un qui a les poches très profondes, comme c'est le cas aux États-Unis, pour soutenir et la création. Alors, on ne parle même plus de licorne là maintenant, mais du stade au-dessus.
Des décacornes.
Des décacornes, voilà. Alors, la plateforme de Mistral AI sera lancée début 2024. C'est pas trop tard?
C'est évidemment une des premières questions que je leur ai posées pour un peu les embêter. Bon, après, c'est vrai qu'en France, on dit toujours ça. Voilà, que c'est trop tard. Ça me rappelle d'ailleurs Symfonium, je ne sais pas si vous avez suivi, donc qui est Octave Claval, patron d'OVH, qui a racheté notamment Quant et qui avait aussi racheté Shadow, qui s'est allié à la Caisse des dépôts pour créer une sorte de plateforme de service dans le cloud. Alors tout le monde dit, évidemment, on est en 2023, c'est un peu trop tard, mais lui, il dit, au moins je l'aurais fait, je l'aurais essayé. Et là, c'est un petit peu aussi la même pensée, mais il y a aussi le côté open source qui les différencie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, OpenAI ou alors Bard de Google, c'est c'est complètement fermé. Eux, voilà, après, n'importe quel développeur pourra aller voir un peu le code, comment ça se passe, et ça permettra aussi de diffuser mieux la technologie un petit peu partout dans le monde. Et donc, c'est un réel avantage, on va dire, compétitif. Donc, je ne pense pas que ce soit vraiment si tard que ça.
On verra. Il y a des places à prendre. Effectivement, le marché de l'IA est encore relativement récent. On a parlé de la technologie, de la stratégie, mais derrière cette intelligence artificielle, il y a des hommes. Qui sont les fondateurs de Mistral ?
Alors, ce sont trois chercheurs, et j'insiste parce que c'est quand même très rare dans le monde des startups. En général, vous avez voilà, quelqu'un qui sort d'une école de commerce, un ingénieur, voilà, toujours à peu près les mêmes profils. Et donc, là, on a Arthur Mensch, qui travaillait auparavant chez DeepMind Paris. Donc, DeepMind, qui était une startup d'IA qui avait été rachetée par Google et qui est aujourd'hui un peu son labo de recherche. Et lui a travaillé sur les grands modèles voilà, de langage. Vous avez Timothée Lacroix, qui, lui, a notamment démarré sa carrière en tant qu'ingénieur chez Facebook, AI Research. Donc, c'était en 2015 à New York. Et c'est là, d'ailleurs, qu'il a rencontré le troisième cofondateur, qui est Guillaume Lample, et qui, lui, dernièrement, avait pris la responsabilité de l'équipe en charge des grands modèles de langage chez Meta. Donc, voilà, c'était le monsieur grand modèle là-bas. Et donc, voilà, tous les trois, ça fait une équipe technique très, très forte. Moi, j'ai parlé un petit peu autour de moi des gens qui sont aussi dans l'IA depuis quelques années et qui m'ont dit que c'est des gens exceptionnels et qui, surtout, m'ont parlé voilà, de Guillaume Lample en disant, d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils avaient investi. C'est aussi parce qu'il y a Guillaume qui est à l'origine aussi de cette entreprise. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'ils ont été accompagnés, parce qu'il faut dire que quand on est trois chercheurs, qu'on veut monter sa start-up, c'est pas forcément très inné et qu'il faut aller lever des fonds. Donc, ils se sont fait aider, en fait, par Cédric O, donc l'ancien secrétaire d'État chargé au numérique, et Jean-Charles Samuelian et Charles Gorantin, qui sont les fondateurs d'Alan, donc de l'assurance santé, qui est aussi une licorne. Donc, voilà, ils les ont aidés à structurer un petit peu ça, à faire voilà, les rendez-vous et la levée de fonds. Mais ils ne sont pas du tout opérationnels dans l'entreprise.
Mais savoir s'entourer, prendre du conseil, hein, c'est essentiel là aussi quand on veut créer son entreprise. Vous le disiez, hein, ce sont des CV qui parlent. Ça peut expliquer aussi pourquoi ils sont parvenus à lever aussi vite ces 105 millions d'euros. Pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de voler de leurs propres ailes ?
C'était vraiment pour proposer un projet complètement différent, parce que alors même si on reste, voilà, comme j'ai sur l'IA génératif, les grands modèles de langage, ils ont une stratégie qui est quand même complètement différente. Ils ne veulent pas faire le ChatGPT que vous connaissez, hop, vous êtes comme si c'était un moteur de recherche, donc pour n'importe qui. Eux, ils veulent vraiment se concentrer sur, enfin, ils veulent vendre, en fait, des modèles de langage et des outils aux entreprises, donc pour outiller le directeur financier, enfin vraiment n'importe quel département d'une entreprise. Donc, c'est vraiment complètement part. Et ils ont aussi un côté, ils sont aussi, on sait, très ambitieux. C'est ce que aussi est beaucoup revenu de moi dans mes discussions avec les gens, voilà, un peu autour. Et ils savent que, voilà, quand je vous dis qu'il n'est pas trop tard, et justement qu'avec une super équipe et les meilleurs modèles, et sans avoir non plus besoin de milliards et de milliards, ils vont pouvoir réussir à faire quelque chose de super solide et qui va se répandre vraiment dans beaucoup d'entreprises, que ce soit d'ailleurs start-up ou grand groupe.
Vous avez vu une vraie licorne vivante ? Comment elle était ? Vous l'avez câlinée ? Elle sentait le caramel ? Elle était toute douce !
Ils sont ambitieux. Ça veut dire que Mistral AI, c'est la future licorne ?
Moi, je préfère plus m'engager sur ça, vous savez. Mais bon, après, c'est fort possible parce que ils ont levé 105 millions.
Ça fait une valo de 200 millions, hein, c'est
un
ça.
Un peu plus. Alors voilà, là, c'est toujours très compliqué, hein, de connaître les valos. Mais bon, entre 200 et 300, on va dire, pour être sûr. Donc, ce qui est beaucoup. Donc, on peut mécaniquement dire à la prochaine levée, qui sera, bon, normalement, si tout va bien, beaucoup plus grosse, bah, que la valorisation va augmenter significativement et qu'on peut arriver très rapidement à ce milliard de dollars.
Guillaume Lample, Arthur Mensch et Timothée Lacroix, des noms qui vont compter à l'avenir, même s'ils n'auront sans doute pas dans l'immédiat la notoriété de Sam Altman, le charismatique créateur de ChatGPT. Mais la France a déjà quelques stars dans l'intelligence artificielle, dont Yann Lequin, dont la conférence à Vivatech a été très suivie cette année.
At a sort of general level, AI is intrinsically good because the effect of AI is to make people smarter. You can think of AI as an amplifier of human intelligence.
L'IA peut rendre les gens plus intelligents, explique celui qui est en charge de mener l'équipe de scientifiques qui travaille sur les projets IA du groupe Meta. Et l'intelligence est créateur de productivité et de bonheur. Ça reste à démontrer, en tout cas pour l'aspect joie de vivre.
Congratulations.
Thank you, sir. I'm happy.
Heureux qui, comme le chien Droupi, a levé des fonds, heureux aussi comme l'école française de l'IA. Et si Paris n'était pas seulement la capitale mondiale de la mode et de la gastronomie, mais aussi celle de l'intelligence artificielle, c'est la question que se posait Raphaël Balnieri dans les pages Tech Média des Échos à l'occasion de l'ouverture du salon VivaTech. Raphaël, on peut parler d'une école française de l'IA, d'une French AI Tech?
Oui, il y a en effet un espèce de French Club de l'IA. C'est un phénomène qui est pas nouveau, hein, mais qui date de plusieurs années. Il faut bien comprendre que dans l'IA, on a besoin de plusieurs choses, d'avoir accès à des données, d'avoir accès à des énormes supercalculateurs pour mouliner ces données, mais il faut aussi du cerveau, du brain power. Et c'est là, en fait, que la France se distingue, puisqu'en fait, on forme chaque année des dizaines, si ce n'est plus, d'excellents chercheurs, notamment des mathématiciens, qui sont formés à Polytechnique, à l'ENS, à l'Université Pierre et Marie Curie. Donc, il y en a beaucoup qui sont très connus, hein. Le plus connu, c'est sans doute Yann Lequin, qui est chez Facebook, mais il y en a plein d'autres, en fait, dans son sillage, qui commencent à émerger.
Ouais, vous parlez de Facebook, hein. Meta, qui est la maison mère, a joué un rôle important, là aussi, dans l'émergence de ce savoir-faire français de l'IA.
Oui, Meta, comme Google et les autres GAFA, mais c'est vrai que Meta a un réseau de laboratoires de recherche en IA mondial, ils en ont 7 dans le monde, et chose qui n'est pas anodine, ils en ont un à Paris. Donc, c'est vraiment dans le siège de Meta France, place de la Bourse.
C'est le FAIR Paris, c'est ça?
C'est le FAIR Paris, exactement. Et c'est un centre qui compte environ 70 personnes, des chercheurs, mais aussi des ingénieurs. Ils accueillent des post-docs. Et donc, c'est quand même un gros centre pour Facebook à l'échelle mondiale.
Ouais, beaucoup de Français chez Google, beaucoup de Français chez Meta. Pourquoi les Américains s'arrachent-ils ces chercheurs?
Bah, il y a vraiment l'excellence française en mathématiques, en fait, et dans la recherche en mathématiques, dans les sciences dures, nos écoles d'ingénieurs. C'est quelque chose qui est vraiment très reconnu à l'international. Après, je pense que les GAFA sont très pragmatiques et que si cette excellence était en Allemagne ou en Italie ou en Espagne, ils recruteraient plutôt dans ces pays-là.
Il y a aussi cette capacité, finalement, de ces groupes à attirer les Français.
Oui, bien sûr. C'est vraiment quelque chose qu'on voit dans le parcours de tous ces chercheurs français de l'IA. Généralement, ils font leur formation initiale en France, mais dès le moment de la thèse ou du post-doc, là, il y en a beaucoup qui partent aux États-Unis. Et les raisons sont diverses, mais ce qui revient, c'est vraiment l'idée d'aller au cœur de l'innovation, de pouvoir tester de nouveaux modèles de travail, de pouvoir se confronter à l'échec sans que ça soit discriminant ou rédhibitoire pour le reste de leur carrière, devenir bilingue. Et évidemment, le salaire est sans commune mesure. Hein. On m'a rapporté des salaires x4, en fait, dans un GAFA versus dans une institution publique de recherche française. Donc, il y a en effet une fuite des cerveaux assez massive.
Le salaire est de 15 sesterces par semaine. Vous acceptez?
Ah, moi qui croyais qu'on était nul en maths et en sciences, en France, on a quand même des cracks, même si on n'a pas le portefeuille des Américains. On a parlé, Raphaël, de Yann Lequin, mais l'on voit aussi émerger de nouvelles têtes dans le microcosme de l'IA. 3 Français, dont une femme, Joël Barral.
Oui, Joël Barral, c'est la Madame Santé et IA de Google. Elle a un parcours très intéressant, elle est polytechnicienne, elle est très vite partie aux États-Unis où elle a passé presque 20 ans de sa vie. Et elle a rejoint Google il y a quelques années déjà, mais elle vient tout juste de rentrer à Paris. Et elle travaille vraiment sur toutes les applications de l'IA dans la santé et notamment dans l'imagerie médicale, donc les IRM. Et elle dit qu'aujourd'hui, l'Europe a une place à prendre et que l'Europe commence à réattirer un peu ses chercheurs de l'IA.
Ouais, elle était partie en 2004 pour faire une thèse à Stanford en génie électrique. C'est vrai que ce sont des noms clinquants dans les universités américaines, dont Stanford. Il y a 2 autres talents de l'IA que vous avez rencontrés. Qui sont-ils?
Oui, il y en a un qui est très intéressant. C'est Jean-Rémy King. Alors déjà, son nom, évidemment, a tout pour lui, mais il a 36 ans. Lui, c'est un Normalien. Il a commencé son parcours universitaire au Royaume-Uni. Et là, il est donc chez Meta, dans ce labo Faire Paris. Et lui, c'est vraiment un expert des neurosciences. Son travail, c'est de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau pour voir un peu ce qu'on peut en tirer pour l'intelligence artificielle. Parce qu'aujourd'hui, en fait, l'intelligence artificielle reste quand même un peu bête. Elle fait des erreurs, elle apprend pas d'elle-même. Et donc, à terme, l'idée, c'est quand même que les intelligences artificielles deviennent aussi puissantes que l'intelligence humaine. C'est la promesse de Yann Lequin, en tout cas. Et du coup, Jean-Rémy King travaille dans ce but-là.
Il y en a un troisième. Alors lui, il travaille pas pour une GAFA. Il a créé carrément, avec deux autres compères, son entreprise basée à New York.
Oui, Gingface, c'est un des grands noms dans ce French Club de l'IA. C'est une start-up française basée aux États-Unis. Et eux, en fait, ils hébergent des dizaines, voire des centaines de modèles d'IA en open source. C'est-à-dire que tous les développeurs, tous les chercheurs peuvent s'en servir et les améliorer.
Il est physicien, il s'appelle Thomas Wolf.
C'est Thomas Wolf, un polytechnicien français. Et donc voilà, lui aussi, c'est une des stars montantes de l'IA.
Alors on voit que des concurrents à ChatGPT, il y en a qui émergent, et notamment ce concurrent français, Mistral AI, qui veut développer une IA à la française. C'est aussi un enjeu de souveraineté numérique.
Oui, bien sûr, c'est très important. Et Emmanuel Macron a pris le sujet à bras-le-corps. Il expliquait récemment à VivaTech qu'il y a 5 ans déjà, 1,5 milliard d'euros avaient été investis dans l'IA suite au rapport de Cédric Villani, lui aussi célèbre mathématicien français. Et là, l'idée, c'est d'accélérer surtout sur la formation. Le gouvernement a bien compris que c'était notre carte à jouer sur le sujet. On ne peut pas rivaliser avec ChatGPT sur les données. Mais en revanche, sur la formation, on peut. Et donc, Emmanuel Macron a dit à VivaTech qu'il voulait doubler le nombre de formations dédiées à l'IA. Il y a déjà des écoles spécialisées qui existent pour avoir 5 à 10 IA clusters et 2 à 3 références mondiales. Donc ça va être un investissement supplémentaire de 500 millions. Et par ailleurs, il veut également augmenter les capacités de calcul. Aujourd'hui, la France a un seul supercalculateur, c'est Jean Zay, mais il est pas très puissant. Et du coup, là, 50 millions vont être investis pour multiplier par 4 sa puissance de calcul. C'est un autre axe très important.
La BPI, de son côté, va mobiliser 50 millions d'euros pour favoriser l'amorçage des startups spécialistes de l'IA.
La révolution est en marche, mais les Européens veulent des garde-fous et des limites. Le Parlement veut poser un cadre juridique à l'intelligence artificielle. Un premier texte a été adopté ce mercredi. Le but, c'est de lutter contre les dérives, la désinformation, les libertés individuelles. L'intelligence artificielle que la France veut néanmoins encourager.
Emmanuel Macron en disait vraiment la priorité, c'est de faire du en même temps, accélérer la recherche et participer à une régulation dont le périmètre doit être le plus large possible. On parle beaucoup de cette régulation en France, mais aussi en Europe. Est-ce que la régulation peut finalement être aussi un frein pour l'IA en France?
C'est un risque, et c'est vrai qu'à la fois Emmanuel Macron et le ministre du Numérique, Jean-Noël Barrot, le rappellent régulièrement. Il y a des vrais risques, perte d'emploi, cyberattaque à grande échelle, piratage des droits d'auteur, etc. Et en même temps, l'Europe ne peut pas rester à l'écart de cette révolution technologique, parce que sinon, en fait, le risque, c'est que l'IA fasse naître de nouveaux GAFA. On voit aujourd'hui le poids de Nvidia dans l'IA, qui est une boîte américaine. Donc, on ne veut pas se retrouver dans 5 à 10 ans avec à nouveau 4 à 5 géants dont on serait dépendant. Et donc, il y a un vrai enjeu de trouver le point d'équilibre entre régulation et innovation. C'est un peu le sens de l'AI Act européen, donc qui est ce nouveau règlement chapeau qui doit réguler l'IA et qui va essayer de trouver ce point d'équilibre.
Alors Raphaël, sur les 3 Français stars, nouvelles stars de l'IA, Joël Barral et Jean-Rémy King, ils sont aujourd'hui en France, entre Paris et Marseille. Thomas Wolf, il est en Europe maintenant, on le disait, aux Pays-Bas. Est-ce que on voit cette volonté de mettre les bouchées doubles dans l'IA, est-ce que ça peut faire revenir justement des chercheurs partis chercher fortune à l'étranger?
Oui, oui, c'est le pari. Certains reviennent pour des raisons familiales ou d'autres pour la qualité de vie. Joël Barral me disait voilà, qu'en termes de qualité de vie, l'Europe, c'était inégalable. Maintenant, elle redécouvre le plaisir de la marche à pied pour aller au bureau. C'est vrai qu'aux États-Unis, c'est pas possible. Mais je pense qu'il faut que ça aille beaucoup plus loin et qu'on soit en mesure d'offrir des salaires compétitifs pour les faire revenir, parce que sinon, ça sera... voilà, on peut pas attirer ces chercheurs uniquement avec le lifestyle. Mais néanmoins, vu que des startups commencent à émerger en Europe, c'est une tendance qui pourrait s'enclencher.
Merci Raphaël Balnieri, spécialiste des télécoms aux Échos, et merci Charlie Perrault, chef du service Startup. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Your personal info, like addresses, phone numbers, and more, are collected and sold by data brokers. But Aura steps in, scanning the web, sending you alerts, and requesting your info be removed. Get Aura's full toolkit, including credit and transaction monitoring, a password manager, VPN, and more. Get a 14-day free trial at aura.com/safety. That's AURA.com/safety.